Moi, j'ai 32 ans, je suis pas locataire oriental. J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi,
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces derniers numéros des Paroles aux auditeurs de cette semaine. Ce vendredi 5 août 2011, nous sommes dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. En fin du mois de juillet dernier, les étudiants de quelques institutions publiques d'enseignement supérieur et universitaire ont dénoncé ce qu'ils qualifient de commercialisation des documents académiques tels que syllabus, travaux pratiques, recueils d'exercices et des résolutions. À côté de cela, on note également le recours à des cours de complément. Ils disent acheter des syllabus, travaux pratiques et des recueils d'exercices à 10 voire 20 dollars américains par cours. Des fois, les syllabus sont vendus en 2 ou 3 modules chacun. Ces dépenses considérées douloureuses par les étudiants augmentent ainsi d'une manière globale le prix d'études à payer durant l'année académique et qui rivalise avec les prêts dans des institutions privées. Comment réagissez-vous face à cette situation et que proposez-vous pour résoudre ce problème? Parole aux auditeurs et soit dans ce studio le professeur Pierre Kita. Il est conseiller académique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Marissa Kalumba est à la réalisation de cette émission mise en œuvre par Sylvain Matondo. Nicole Ngata est à la supervision et Pierrot et la Mésie vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiotapi.net.
Vous êtes étudiant, professeur assistant, chef de travaux, vous êtes parent, les débats d'aujourd'hui vous intéressent, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez à travers le pays, il s'agit bien sûr des inquiétudes présentées par les étudiants de quelques institutions publiques ici à Kinshasa, qui disent qu'il y a ce qu'ils appellent la commercialisation des documents académiques tels que nous avons cité, nous avons parlé des syllabus, nous avons parlé des travaux pratiques, nous avons parlé de recueils d'exercices et des résolutions. À cela, ils ajoutent aussi les cours de complément. Beaucoup pensent que les prix payés pour tous ces documents ont plus que la globalité des prêts académiques à payer. Alors, vous avez besoin d'intervenir, appelez-nous au 081-890-63-15. Professeur Pierre Moussita, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, vous êtes le conseiller académique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Avant peut-être d'aller plus loin, écouter les auditeurs qui sont en ligne, au niveau du ministère, quand vous écoutez une telle nouvelle, quelle peut être votre réaction devant ces plaintes des étudiants?
La réaction est très simple. On ne peut pas dire que les étudiants mentent. Il est vrai que notre enseignement supérieur universitaire, dans toutes ces institutions, les universités, les instituts supérieurs, etc., nous avons remarqué, nous avons observé beaucoup de ce que l'on a maintenant l'habitude d'appeler antivaleurs. C'est-à-dire beaucoup de comportements qui sont déviants, qui ne suivent pas la ligne de conduite tracée par le ministre, qui sont tout simplement, je peux dire, des délits. Donc, que les étudiants dénoncent ce qu'ils appellent la commercialisation des documents, il y a bien d'autres, mais fait aussi la vente, il parlait de syllabus, etc. Il y a le monnayage des points, il y a les points sexuellement transmissibles, etc., etc. Tous ces méfaits-là sont connus par le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Donc, je peux dire que les étudiants ont tout à fait raison de dénoncer ces méfaits-là.
Et que pourtant, au début de chaque année académique, comme cette année, il y a eu l'instruction, s'il faut dire l'appeler comme ça, 012, n'est-ce pas, qui fixe clairement les frais que les étudiants doivent payer durant l'année académique.
Oui. Je suis heureux d'ailleurs que vous fassiez allusion à l'instruction 012. Parce que l'instruction académique 012 est véritablement la Bible que le ministre de l'Enseignement supérieur a mis à la disposition de toutes les institutions qui indique clairement les comportements que l'on doit avoir. Vous faites allusion au prêtre académique, ceci est vrai. Et là, dans la 012, tout est bien détaillé.
Voilà.
Et le ministre avait demandé que cette instruction soit communiquée et une très large diffusion dans l'ensemble de la communauté universitaire.
Et on se rend compte que ce soit les parents, que ce soit les comités des étudiants, la plupart n'ont pas connaissance des contenus de cette instruction, de cette instruction, par exemple. C'est ça le plus grand problème. Ils ne savent pas qu'est-ce que le ministre a décidé à donner comme instruction pour l'année académique. Quand on essaie de mener des enquêtes, de causer avec les étudiants, la plupart ne connaissent même pas les contenus de l'instruction.
Je n'irai pas jusqu'à dire nul n'est censé ignorer la loi. Mais il est vrai que s'il y a une institution où la 012 n'a pas connu une large diffusion, eh bien, les potis sont les membres du comité de gestion, les potis sont la coordination des étudiants, les potis sont le corps académique et scientifique, le corps administratif et technique, parce que ce document a été largement distribué dans toutes les institutions.
Voilà, on va revenir à vous, parce qu'on n'a pas encore abordé les aspects de savoir si oui ou non doit-on faire payer l'argent pour les syllabus, pour les TP, on va en parler, les temps aussi qu'on puisse écouter ceux qui sont concernés, c'est la population, ce sont les parents, ce sont les étudiants qui sont à l'île, mais aussi les professeurs, les chefs de travaux, les assistants. Si vous écoutez parole aux auditeurs, vous pouvez intervenir pour donner votre point de vue. Notre idée, c'est de dégager le plus de solutions pour qu'on puisse permettre aux uns et aux autres d'évoluer sans beaucoup de difficultés. Payumba et Tachikapa, Arsène et Takekuit, Piston et Tawalikale. On va revenir à vous, messieurs, pour commenter avec nous ce sujet autour de documents appelés, bien sûr, c'est que les étudiants appelés la commercialisation des documents académiques.
Parole aux auditeurs.
Kayumba, vous êtes à Tikapa dans le café occidental, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, c'est le best Kayumba, Tikapa.
Est-ce que vous connaissez cette situation telle qu'est dénoncée, si on peut le dire, par les étudiants, c'est quelque chose de Kinshasa?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je dirais que ce système-là est déjà ancré dans le sang de tous les corps académiques de la ville de Tikapa. Pourquoi même les autorités académiques ne tiennent pas encore compte de la capacité intellectuelle des étudiants. Pour elles, c'est l'argent qui est en première position, les affinités en deuxième position et l'intelligence en dernière position. Pierrot, laissez-moi vous dire que nous avons assisté aux aventures de nos chefs des instituts supérieurs ici à Tikapa. Comment expliquer un étudiant qui fait donc 4 à 3 ans sans s'être présenté au cours, les cours toujours à caractère mathématique, ils étaient tous au niveau de la CENI, ils se présentent seulement lors des examens, et ils parviennent à réussir, et celui qui suivait donc les cours régulièrement, il échoue. Ils ont donc un slogan selon lequel les cours sont donc sentimentaux. C'est-à-dire, il y a encore un grand problème aussi, comme vous venez de parler des climats. Nous assistons à des sérieux problèmes ici à Tikapa. Parce que si vous n'avez pas payé un syllabus pour un professeur, automatiquement vous avez échoué. Ce qui se fait aussi pour la collation des grades. Nous avons vu ceux-là qui n'avaient pas même aucune connaissance. Nous les avons vus passer et ceux-là qui avaient au moins des bagages intellectuels, ils étaient donc ajournés. Ce système-là, vraiment, nous sommes en train de régresser ici dans la ville de Tikapa. Les autorités aiment toujours l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, je pense que vous ne pouvez pas passer la promotion.
Merci, Kayumba de Best. Si on retient, en bref, pour vous, d'abord, les gens qui sont partis travailler dans les opérations de régime électoral avec la CENI, 3-4 mois d'absence, sérieusement, ils ont reçu brillamment dans les cours quand ils sont revenus à la session. Et puis, si vous n'avez pas des syllabus, d'abord, vous n'avez pas droit d'avoir le point. Merci beaucoup de Kikapa au Café Occidental. Nous allons à Kikwit dans le Bandundu. Arsène, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, M. Pirot.
Vous avez suivi la thématique de notre émission autour de documents académiques, leur commercialisation et les témoignages de Kikapa. Mais nous dégageons aussi depuis que des solutions, c'est aussi important pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, de mon côté, je pense que c'est d'abord un problème de gestion. La gestion elle-même dans son fondement. Parce que ça, ce sont que les conséquences. Les conséquences de quoi? Les conséquences de la mauvaise gestion. La mauvaise gestion est devenue comme une maladie ici chez nous. Ben, même si vous voyez de l'autre côté, au niveau du ministère, on prend des décisions. Ok, ce sont de belles décisions. Mais les décisions qui se prennent dans les bureaux climatisés ne suffisent pas. Il faut d'abord voir l'enseignement à quel niveau nous sommes devenus. L'enseignement est presque par terre. Ceux qui sont censés apprendre les bonnes manières, l'éthique même de la vie, ce sont eux qui sont des premiers personnages à détruire. Un professeur qui va enseigner, qu'est-ce qu'il va enseigner? Il enseigne la science et dans cette science, ils vont enseigner l'applicabilité de cette science. Mais nous nous retrouvons avec des jeunes cadres qui ont des diplômes d'université, mais qui n'ont pas la base. Pourquoi ils n'ont pas cette base? C'est parce que l'État s'est déchargé. Ça, il faut se le dire. Maintenant, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est d'abord repenser même la politique de notre nation. Il faut toute une révolution. Parce que celui qui a été à l'université vers les années 60, qu'est-ce qu'il dira de ceux qui sont à l'université cette année? Il dira clairement que vous n'apprenez pas, vous êtes en train de ramasser les diplômes. Mais ce sont ces mêmes cadres qui doivent tenir l'avenir de ce pays. Monsieur le conseiller qui est là, notre invité, qu'il essaie un peu d'équilibrer, qu'aujourd'hui c'est un grand cadre de notre République, qu'il essaie de voir comment il a étudié et comment ceux qui sont maintenant sont en train d'étudier, au lieu de se cacher derrière les décisions théoriques qu'ils sont en train de prendre dans les bureaux climatisés, aller sur le terrain, voyez l'infrastructure, voyez le salaire des enseignants, voyez tout ce qu'il faut pour les étudiants, pour que les études soient correctes et que demain, on puisse dire, écoutez, le Congo a des véritables cadres. Nous sommes en train de reculer, c'est citoyable, ça énerve un peu, mais c'est décevant. Il faut trouver des solutions, il faut toute une révolution des mentalités statiques qui sont en train de nous asseoir et qu'on ne peut même pas se défendre devant les chutes internationales. Je vous remercie.
Merci, on suit vraiment la rage hein, avec laquelle vous intervenez, Arsène, pour comprendre la profondeur du problème. Vous pensez qu'il faut une révolution mentale, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère, au niveau du comité de gestion, au niveau des parents, des étudiants. C'est un problème global, selon vos propos. Merci beaucoup, Arsène, d'écrire dans le Bandundu. Piston, vous êtes à Walikale, dans le Nord Kivu. Bonjour, Piston.
Oui, bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs qui nous tapent ce moment.
On vous écoute, Piston.
Bien sûr, c'est une situation vraiment alarmante, c'est une situation qui n'est pas intolérable. Vous savez, ça d'abord, ça fait affaiblir la jeunesse, les étudiants, en particulier, et ça appauvrit beaucoup plus la famille, ça appauvrit beaucoup plus aussi les étudiants. Parce que si vous demandez de payer les syllabus, de payer d'autres frais en maître, ça diminue la capacité ou les capacités n'est pas des parents et aussi de l'étudiant. Et si de telles pratiques continuent à se manifester dans notre pays, je vous dis, ça va affaiblir donc les capacités intellectuelles donc des étudiants. Parce que c'est sûr qu'avec l'argent, ils vont payer et ensuite ils vont passer la classe. Et ensuite, et ça va aussi favoriser des qui n'est pas vrai. Et pour les choix, ça favorise également les assistants, etc. C'est que je souhaiterais recommander auprès du gouvernement congolais de faire des centres sur le terrain, vu pas des supervisions ou du moins de faire le suivi par rapport aux pratiques qui se font sur le terrain. Et parce que s'il n'y a pas de suivi par rapport au projet mis en place, il n'y a pas de but. Moi, je vous dis que ce projet-là doit nécessairement tomber dans les carreaux, dans les trous. Voilà donc que la responsabilité est partagée de la part du gouvernement, de la part des étudiants, de la part aussi des comités de gestion. Et voilà donc Il fallait donc Merci
Piton. Vous avez évoqué aujourd'hui que le fait que les étudiants on leur vend des slavistes parce qu'ils savent qu'un type de slavistes sont étudiants, par exemple, déjà un point ou 10 points, ça faiblit la capacité intellectuelle des étudiants. Mais vous interpellez le ministère pour descendre sur le terrain, mener des enquêtes et comment améliorer ça. Nous avons terminé avec des hauts, des bouts de mots pour revenir à notre invité qui va essayer de répondre ou de commenter ce point de vue des auditeurs. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Boutembo dans le Nord Kivu. On vous écoute, Déo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème?
Oui, donc ce que je pouvais dire, c'est que moi-même, je suis étudiant de la place, je me suis dit seulement de cette pratique-là. Alors, il y a même de ces enseignants qui mettent même une liste, donc avant d'avoir même le sujet de TP, vous devez d'abord payer sur la liste, on voit votre nom sur la liste, et on vous donne le sujet de TP. On voit votre nom sur la liste, on vous donne le sujet de TP.
Oui, de haut, par exemple, vous êtes à Boutembo. Pour le TP, vous payez combien? Pour le TP, par exemple.
Ça dépend pour le TP, ça dépend même de l'enseignant. Il y a des enseignants qui peuvent vous demander 5 dollars, 3 dollars, 7 dollars. Donc ça dépend de l'enseignant à l'autre. Mm-hmm. Et maintenant, cette pratique nous rend de plus en plus incompréhensif envers nos parents. Mm-hmm. Quand vous venez le matin comme ça, vous dites au Parlement, je dois autant pour tel TP, je dois autant pour tel TP, je dois autant pour tel TP. Alors les parents nous demandent même, mais comment est-ce que vous étudiez? Nous, à notre époque, on n'étudiait pas de cette façon. Et maintenant, on a même des problèmes avec même les parents. Mais sinon, je voulais poser une question au propos de notre invité. Comme il est là, il est vraiment mieux placé pour me répondre. Qu'est-ce que l'invité a pu trouver comme une piste de solution pourvu que cette situation puisse terminer dans les institutions universitaires? Parce que lui-même, il a regretté dans cette pratique. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il a envisagé comme piste de solution pour décasser cette question?
Merci Déo. Merci Déo, vous êtes étudiant, vous avez dit à Boutembo, avant même de pouvoir recevoir les sujets de TP, on vous exige de payer l'argent, d'avoir le nom sur la liste. Mais la question est posée à notre invité, quelles sont les solutions au niveau du ministère pour résoudre ce problème? On va écouter Aziz, je crois aussi, et là on revient à notre invité. Aziz, vous êtes en ligne de Kamina au Katanga, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassi.
En tout cas, on peut dénoncer, on peut encore revenir une fois à dénoncer, parler, parce que la situation est presque comme ça, on peut dire partout, mais nous avons aussi besoin des pistes et des solutions. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour régler cette situation?
Oui, merci. Moi, je voulais juste poser une question à l'invité.
Allez-y.
Nous savons que dans nos universités, nous avons plusieurs personnels. Il y a l'assistant de premier mandat, il y a les chefs de travaux, les professeurs associés ainsi que les professeurs ordinaires. Alors, je dis que selon dans notre université ici à Kamina, pour réussir d'abord, il faut avoir payé les droits d'auteur. Mais je pose une question à l'université. Mm-hmm. Ils sont autorisés à demander les droits d'auteur. Est-ce que tous les membres de l'université ou soit qu'il y a des branches qui sont autorisées à demander les droits d'auteur?
Mm-hmm.
Et pour un peu amener aux pistes des solutions, je veux que s'il y a un texte qui est prévu pour demander les droits d'auteur, il faut qu'il y ait une sensibilisation pour les faire voir. Si vous n'êtes pas autorisé à demander les droits d'auteur, alors il ne faut pas le faire. Voilà.
Merci Aziz Abikamina qui est habilité à demander aux étudiants les droits d'auteur comme il a remarqué sur place à Kamina. On l'a invité pour répondre à cette question.
Chaque jour, la fréquence de la KMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Kapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Kapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa.org. info@radiocapitale.
Professeur Pierre Guida, nous allons revenir à vous. Il y a beaucoup de choses que les gens ont abordées d'une manière générale par rapport au problème de l'enseignement. Mais pour être un peu plus précis dans notre sujet d'aujourd'hui qui traite au niveau des documents académiques appelés ainsi par les étudiants, et c'est là même qui a conduit notre ami Aziza à déposer sa question au CDO de Butembo, voire même Kayumba de Kiapa. C'est la question vraiment qui tout le monde attend. Est-ce que la vente des syllabus est autorisée dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire? Et si cela est autorisé, qui a droit de pouvoir toucher l'argent? C'est ce que lui appelle les droits d'auteur, comme cela est demandé à Kamina. C'est la même chose avec les TPE aussi. Voilà vraiment la base de la question.
Eh bien, j'ai suivi avec attention les interventions et je dois dire que je suis très heureux que de toutes parts, que Kikapa, Kikuito, Alikale, Butembo, Kamina, etc., les préoccupations sont les mêmes. La question première qui est posée, qui a droit? Est-ce qu'on peut vendre des syllabus? Est-ce que les droits d'auteur constituent véritablement un droit? Je dois vous dire tout de suite que la vente des syllabus est prohibée. Aucun professeur, aucun assistant n'a le droit de vendre les syllabus. Ça doit être dit clairement. Il se fait que la rédaction d'un syllabus, comme d'un livre, peut entraîner des prêts. Ces prêts doivent être couverts. Mais il n'appartient pas à un professeur d'exiger que voilà, moi j'ai produit un syllabus de 150 pages et vous devez me payer autant. Non, ceci est interdit. D'autant d'ailleurs que nous le savons, je n'aurai pas honte de le dire, nous avons des collègues professeurs qui reproduisent les mêmes syllabus pendant 10, 15, 20 ans et toujours à les faire payer.
Voilà.
Voilà pourquoi un certain nombre de dispositions ont été prises. Pour que celui qui a fourni l'effort de mettre à disposition des étudiants un document, eh bien que cet effort-là, je ne dirais pas qu'il soit récompensé, mais qu'au moins les frais engagés soient remboursés
par les étudiants.
Non, maintenant je vais vous dire comment ceci peut se faire. Par exemple, ici à Kinshasa, il existe une institution qui s'appelle le CDCIRC, qui est en grande partie financée par la coopération française, mais peu importe celui qui soutient cela. Eh bien, un professeur qui croit que son cours est déjà prêt peut aller présenter ce manuscrit au CDCIRC à travers son institution. Le CDCIRC imprime ce document, le met à la disposition des étudiants à travers toujours les institutions. Alors, le CDCIRC s'organise pour que une partie des frais soit remboursée à l'auteur, une petite partie à l'institution, et naturellement le CDCIRC lui-même qui a engagé des frais, etc., et une petite partie soit payée par les étudiants, non pas de manière obligatoire, mais comme un livre qu'on peut aller acheter dans n'importe quelle librairie. Voilà une première modalité. Une autre modalité, qui est de plus en plus d'ailleurs appliquée dans des institutions, c'est que moi, professeur, j'ai un syllabus, que nous appelons comme ça syllabus, je remets ce syllabus à mon institution, c'est l'institution qui évalue, et il y a disons un barème, si c'est un syllabus d'autant de pages, eh bien, l'étudiant peut payer 2 dollars ou 5 dollars, etc., pour le syllabus. Alors, à ce moment-là, c'est l'institution qui fixe le prix et qui récolte également l'argent, parce que c'est l'institution qui paye l'enseignant et non pas l'étudiant. L'étudiant, lui, va aller acheter ce syllabus auprès de la paritaire ou auprès d'un autre organe que l'institution aura indiqué. Et c'est ce qui est fait dans toutes les universités du monde. Vous pouvez aller dans n'importe quelle université du monde, vous trouverez une librairie universitaire dans laquelle les étudiants peuvent aller acheter des notes de cours que nous appelons ici syllabus. Donc, ceci est, doit être fixé de manière claire. L'auteur qui est enseignant n'a pas le droit, je le répète, n'a pas le droit d'exiger le paiement des syllabus auprès des étudiants. Mais ce qui est encore une pratique beaucoup plus grave encore, celle qui consiste à inventer, j'utilise le terme à dessein, inventer des TP. On connaît même, je ne citerai pas les institutions, mais on connaît même des institutions où pratiquement chaque jour, un enseignant impose un TP. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Et quand bien même on impose un TP, a-t-on le droit de faire payer ce TP?
Non, on va recevoir le sujet, ton nom doit figurer sur la liste, comme on l'a vu, un autre ami de Boutombo l'a dit.
Ah ben oui, il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela parce que ceci est tout simplement illégal.
Mais professeur, ce problème de syllabus, on voit, quand vous avez déjà acheté, le fait d'avoir acheté les syllabus du professeur, d'office, vous avez 10 points pour le cours, mais il y a ce problème, l'étudiant, beaucoup d'étudiants se rendent compte aujourd'hui qu'il y a des syllabus qui sont les copies conformes d'un livre, il est allé dans la bibliothèque, il a vu un livre, il a acheté peut-être les livres, il l'a lu, et il se rend compte que le professeur a reproduit les livres que l'étudiant avait déjà lus. À quoi sert, ça sert à quoi à l'étudiant d'aller acheter les syllabus? Et or, quand il achète, il n'a pas le droit d'avoir ces 10 points. Mais toutes ces mesures existent. Mais le problème, c'est au niveau de l'applicabilité dans les sous-ministères à Kinshasa, où se trouvent les thèses du ministère, professeur.
Oui. Vous avez raison de le dire. Et j'étais d'ailleurs heureux que notre ami de Radical ait parlé d'une responsabilité partagée. Puisque nous sommes d'accord qu'il s'agit là de comportements délictueux, il faut les dénoncer. Et les professeurs, aujourd'hui, qui font cela, moi, je les qualifie de criminels. On n'a pas le droit de vendre un syllabus. Comme on n'a pas le droit de vendre un TP. Comme on n'a pas le droit de vendre des noms. Mais malheureusement, ils bénéficient de la complicité de tous ceux qui se taisent et qui le savent pourtant. Pourquoi est-ce que les étudiants ne dénoncent pas cela? On a dans chaque institution une coordination des étudiants. On a vu rarement une coordination des étudiants aller dénoncer tel ou tel enseignant. Un étudiant, on ne peut pas lui dire tu ne peux pas passer mon examen parce que tu n'as pas monté la
réponse. En réalité, c'est pour terrain.
Oui, on devrait le dénoncer parce qu'un prof n'a pas le droit de le. Et on arriverait à une solution si justement l'achat de syllabus, de TP, bien que ce soit, ça soit pas normal, etc. Mais ce n'est pas plus entre professeurs et enseignants. Il y a une librairie universitaire dans laquelle l'étudiant est libre, je répète bien, libre d'acheter ou de ne pas acheter. Alors cela résoudrait beaucoup de problèmes.
Voilà. Alors, nous avons Eugène Abounia, Christian Adibaya, Marc Amboujumaï. Vous avez suivi monsieur l'intervention du conseiller du ministre qui a expliqué clairement et défini clairement les mesures par rapport à tout cela. Mais le problème se pose au niveau de la mise en pratique sur le terrain et aussi le mot-clé, si je peux le dire ainsi, c'est la dénonciation, que ce soit au niveau des étudiants, voire même aussi les parents. Nous allons aussi vous donner la parole pour avancer et surtout définir ce que vous pensez qui puisse être fait et concrètement pour mettre fin à toutes ces pratiques.
Parole aux auditeurs.
Evelyne, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, tout ce que les professeurs, c'est pas les conseils du ministère, vient de prodiguer comme ça. C'est tout à fait réel. Ce sont des faits qu'on retrouve sur place. Mais moi, je voulais aborder dans ce point-là.
Mm-hmm.
En fait, le problème des syllabus à ces jours, on constate que ce n'est plus le syllabus qu'on peut mettre à la disposition des étudiants. Le monde évolue avant de gérer comme on dit. Le syllabus qu'on met à possession des étudiants, ce sont des syllabus qui a déjà qui est vieillissant, hein, sa vie, et puis le professeur ne parvient plus à faire d'autres. Et puis on peut dire que ce n'est plus depuis syllabus. pour s'en procurer des syllabismes-là, pour le fil, il faut porter le nom de PS. Professionnel de sexe, il faut voir le, quoi, le, il faut voir le professeur pour qu'il se procure cela. D'autres personnes qui vous ne payez pas, ça coûte très cher, vous ne payez pas cela. Eh bien, on vous épouse, vous n'allez pas passer les examens. Deuxième session est là, c'est ça la règle, les règles des étudiants. Et puis l'autre problème, c'est quoi? Moi, je vais proposer ceci. Tout cela dépend de l'administration. Les institutions du Congo sont affaiblies. Ce sont des histoires qu'on parle partout. Tous les jours, on parle de cela. Si on pouvait contrôler les professeurs, un contrôle systématique des syllabismes, on ne peut pas déposer. Aujourd'hui, vous voyez, un professeur vient, bon matin, il vient dans la classe, dans le diplôme, il donne à chacun son syllabisme, qui m'amène l'argent, ou soit qu'il cherche le chef. Il dit, toi, tu donnes ce syllabisme, et puis ils vont t'amener de l'argent à la maison. Mais ce n'est pas cela. Il faut que cela soit contrôlé par l'institution, par l'université même. Qu'on sache que ces syllabismes-là sont compatibles, oui ou non. Comme ça, on peut les reprocher, parce qu'il y a des professeurs paresseux. Il est là, il va à l'Europe, il revient, il n'a pas le temps même de corriger les copies des étudiants. Alors, s'il vous plaît, au niveau du ministère, ce serait mieux de passer par des contrôles systématiques des professeurs. Ça ne veut pas dire qu'il marque de volonté, mais seulement il n'a pas de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on contrôle cela.
Merci, Jeanne. Vous insistez beaucoup sur le renforcement de l'administration, mais les conseillers pourront nous donner aussi quelques explications parce qu'il y a eu dernièrement, on a vu depuis l'année passée, hein, les contrôles de viabilité des institutions. On pourra en parler avec lui. Il est temps d'écouter aussi d'autres personnes comme Crispin qui est à Dibaya. Crispin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Dibaya, c'est dans les Kassai occidentales, c'est quoi?
Oui, je suis dans le Kassai occidental, plus précisément dans le district de la Loulouwa. Je voudrais intervenir pour parler un peu de ce qui se passe dans les institutions. Supérieure à l'université de Tumbulu.
Voilà, Tumbulu, oui, c'est dans les territoires de Dibaya. Merci. On vous écoute, Christin.
Oui. Il est vrai que nos fins sont monnayées, comme on l'a dit, sont commercialisées, et plus encore même par les étudiants qui ne suivent pas le cours, mais qui savent qu'à la fin, on va devoir corrompre, on va passer. J'ai vécu un cas à un secrétaire général de l'académie d'une institution dont je sais le nom, et qui a vendu de points et les étudiants sont passés de promotion. Mais pour ma part, je trouve que c'est parce qu'il y a l'impunité. Puisqu'on a même écrit au directeur général de cette institution-là, et qui n'a pas réagi, et ce secrétaire académique continue à œuvrer. Et il y a un problème de responsabilité, comme l'a dit un intervenant. Et ensuite, je félicite le professeur et conseiller du ministre, parce que la responsabilité se situe au niveau aussi du ministère, puisqu'il n'y a pas d'impunité. Il y a le recrutement que l'on fait, et pour la plupart, ce sont des personnels scientifiques, donc des assistants, et qui monnaient beaucoup plus ce point-là, et qui font de n'importe quoi. Et comme piste de solution, moi je propose la sélection des candidats au poste dans un scientifique académique. On ne doit pas prendre n'importe quoi. Quant au droit d'auteur, je crois qu'on a balayé tout ce que j'avais dit par le professeur, et évidemment, si on accepte le problème de droit d'auteur, on doit intégrer ça dans le fruit académique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de que toutes ces autorités, entre autres, beaucoup de députés sont devenus aujourd'hui des étudiants, et on sait ce qu'ils font. Ils ne vont même pas au cours, mais ils utilisent aussi certains jeunes gens qui doivent faire des examens pour eux. Tout ça, on doit pouvoir passer par un système, disons, un contrôle systématique pour pouvoir vérifier ce genre de choses. Sinon, notre enseignement universitaire sera au rabais. Voilà ce que je voulais dire pour ma part.
Merci beaucoup, Christian Dédi, Baye au Kassai occidental. Vous avez le mot clé pour vous, c'est la lutte contre l'impunité, que ce soit à partir du ministère, tout comme au niveau du comité de gestion. Merci beaucoup, mais vous avez aussi évoqué la sélection des candidats à tous les postes de responsabilité. Nous allons juste à côté, hein, en Boujimaï. Marc, vous êtes en ligne, bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Vous êtes en Boujimaï au Kassai oriental. On vous écoute, Marc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci. Moi, premièrement, je vois que c'est décevant du fait que l'invité connaît qu'il y a les professeurs à l'UNIKIN, d'abord, là où se trouve le gouvernement national, lui, en tant que conseiller, il a décidé qu'il connaît certains de ses amis qui font cela. Mais jusque-là, quelles sont les mesures qui sont prises pour essayer d'éradiquer cela? Et après cela, je peux aussi dire que la responsabilité est partagée entre les ministères et les enseignants. Du fait que les enseignants ne sont pas bien payés. Combien de fois on a vu les professeurs réclamer leur salaire ici au Congo? Combien de fois on a vu les professeurs chercher même les études, ou même vous savez, et même les invités connaissent tout ça. Alors, d'abord, les enseignants là ne sont pas bien payés. Quand ils élaborent les syllabus, c'est pour avoir un peu de moyens pour permettre leur survie, puisqu'ils doivent avoir normalement des moyens. Et le gouvernement ne leur donne pas ces moyens-là. C'est pourquoi, eux aussi, ce n'est pas sur les étudiants pour commencer à chercher l'argent de cette façon-là. Et également, il se fait un problème. On ne fait qu'augmenter les prix des frais académiques, les prix des syllabus et des TP, alors que les parents, les salaires des parents n'augmentent pas. Prenons l'exemple d'un enseignant qui a un salaire de 45 000 francs à la fin de chaque mois et qui a 10 enfants à l'université. Comment va-t-il payer? Il n'y a pas de contrôle. Quand il y a suivi dans les universités, on envoie une commission pour étudier la viabilité. Merci, c'est bon, monsieur l'invité. Mais qu'est-ce que cette commission-là vous ramène? Et si on trouve que quelque part dans une université, c'est comme ça à ce qui concerne les syllabus, qu'est-ce que vous prenez comme mesure? Vous prenez seulement les rapports que vous gardez pour juste aveugler les étudiants? Le problème est que vous êtes en train de déranger l'enseignement et que vous êtes responsable de cela. Peut-être que si vous payez bien les enseignants, les professeurs, les assistants et les chefs des travaux, et que vous payez aussi bien les parents, ensuite, j'ajoute qu'il y ait quand même suivi, voir quel enseignant a fait quoi, quand et comment.
Voilà.
Et si vous voyez ça, vous pouvez facilement arriver à éradiquer ces problèmes-là. Merci beaucoup.
Merci Marc Dembouzima. Vous avez d'abord responsabilisé notre invité qui connaît même certains de ses amis professeurs qui font ça. Mais vous dites, à la fin de tout, qu'est-ce qu'on fait? Vous insistez sur l'amélioration des conditions des professeurs et aussi des parents pour lutter contre ces pratiques. Nous revenons ici à Kinshasa. Nous avons Dieudonné en ligne. Bonjour Dieudonné.
Bonjour, Jean-Pierre.
On vous écoute, Dieudonné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre et résoudre ces problèmes de monnayage, des syllabus, des TP, comme évoqué dans cette émission?
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je partage le même avis que mon prédécesseur, mais je contredis vraiment sa conclusion. Il a bien introduit, mais il a mal conclu.
Allez-y.
Puis, moi-même, je suis un chef de promotion dans ma promotion. Mais je n'étudie plus. C'est-à-dire, j'étais le CP, je n'étudie plus parce que c'était dû à ça, parce que j'avais tout dénoncé. Il y avait un chef de travaux qui vendait, qui se permettait à tout faire. Parce que moi, à ce que je sache, vous verrez sur l'horaire, on a écrit volume horaire. Et dans ce volume horaire, il y a les heures théoriques et pratiques. Et dans ces verres théoriques-là, vous avez la partie théorique. Cette partie n'est pas vendue. C'est-à-dire, elle est considérée inclue dans le prêt payé. Maintenant, la partie pratique, c'est-à-dire, nous avons les TP et autres. C'est au regard de quelles dispositions peut-être fonctionnelles ou bien organiques qui permet au professeur de vendre le TP. Parce que c'est une partie pratique de ce cours-là. La théorie sera faite et sera pratique. Ça, c'est de un, oui. Lorsque j'avais essayé un sujet, j'ai tenté à dénoncer parce que Machiavel est très clair, nous dit, devant l'injustice, lorsque vous dénoncez, vous êtes complice. Alors, je devrais pouvoir dénoncer. J'ai écrit au doyen. Et j'ai réservé pour que la formation recteur. Alors, la victime était de moi. J'ai connu de sévères problèmes dans ce travail. Vous comprenez que peut-être vous êtes supporté par un bon samaritain, mais peut-être pas par vos parents, vous n'en avez plus. Et maintenant, je suis allé au ministère, combien de fois j'ai demandé des audiences pour pouvoir encore dire ça, parce que mes droits étaient vraiment touchés, je suis allé, on ne me refuse pas. Vraiment, monsieur le conseil, je suis très déçu de tout ce que vous dites, parce que vous connaissez certains de vos collègues, vous devez même citer les noms, parce que moi, je suis même prêt à citer les noms de tous ces professeurs-là, mais je me réserve.
Oui, c'est vrai, sur les antennes, on ne peut pas citer les noms des gens sur les antennes, oui, c'est ça.
Je comprends, mais c'est peut-être à des antivaleurs que j'ai dû dénoncer, je me retrouve à cette situation d'enfer, Pierrot.
Merci beaucoup de donner, mais je crois bien à l'invité. On l'a toujours fait avec beaucoup de nos invités qui se mettent en contact avec les auditeurs, hein, peut-être en dehors de l'émission, pour pouvoir résoudre d'autres problèmes. Mais cela n'exclut pas. Et peut-être hein, vous pouvez avoir
après
les contacts. Oui, peut-être qu'il pourra vous répondre à ce qu'il faut faire pour votre cas. Vous avez dénoncé et vous êtes victime parce que vous ne fréquentez plus les cours à cause des problèmes connus. Donc vous avez été dénoncé. C'est pratiquement plus beaucoup de données. Mais écoutez, quand même, le long de l'émission, le conseiller pourra vous donner la réponse à votre préoccupation. Nous allons à Goma, au nord de vous. Oscar, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute, Oscar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces pratiques?
Bon, je viens d'abord de dénoncer les politiques. Moi, je m'en suis fait appeler. C'est ce qui concerne les syllabistes, en fait, la vente des syllabistes. Je ne sais pas, je voulais savoir où ça peut l'invité me répondre directement ici. Entre les professeurs et l'assistant ou les chefs de travaux, qui a le droit de concevoir un syllabiste? Et en deuxième position, le syllabiste va se vendre à un taux où ça fait à un prix de type 10 dollars, ou soit on a seulement l'obligation de donner les droits de taux à un professeur ou soit à l'assistant. Pour un peu
merci, Oscar. Vous voulez savoir qui a droit de concevoir un syllabiste, professeur, assistant pour les travaux et à quel prix, ou bien c'est les droits d'auteur qu'on donne. Merci beaucoup, vous êtes à Goma, en nord de vous. Nous revenons ici à Kinshasa. Nico, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Nico. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces pratiques?
Oui, en tout cas, je suis content avec de telles émissions parce que ça nous édifie beaucoup et puis c'est comme ça, j'étais un peu sensible à ça. J'ai voulu poser au professeur conseiller du ministre une petite préoccupation.
Oui.
Parce que là, il avait reconnu au début, quand il a eu la parole, qu'il est au courant que les antivaleurs existent. C'est-à-dire que quelque part aussi, il a aussi connu quelques aspects de ces antivaleurs-là. Mais moi, je pense qu'au lieu de continuer à décrier à tout moment des antivaleurs, des syllabistes, tout ça, la solution serait de passer une solution durable. C'est comme ça que je pose cette petite question au conseiller professeur. De façon pragmatique, bon, qu'est-ce que le ministère de l'ESI prévoit pour réprimer ces antivaleurs? Sinon, la science va dans notre pays. Il y a une intervenante qui a parlé de que il y a certains étudiants qui ne savent pas se défendre, ils ne participent pas au cours et à la fin ils réussissent. Donc, vous pensez que la valeur de l'enseignement au Congo risque d'être déconsidérée ailleurs? Et comme ça, il faut au conseil possible de nous dire, de façon vraiment très pratique et concrétisée aussi, ce qu'il pense en tant que technicien de l'enseignement.
Merci beaucoup, Nico. On termine avec vous, Justin. Vous êtes à Fondroma, en province orientale. Bonjour, Justin.
Bonjour.
Vous avez suivi la question de Nico de Kinshasa. Pour lui, il demande au ministère de savoir quelles sont les mesures concrètes hein, pour réprimer ce genre de comportement et mettre fin à ces antivaleurs. On vous écoute, Justin.
Voilà, d'abord je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ici à Saint-Romain. Moi, simplement ce que je voudrais demander à notre invité, simplement. Donc, j'ai saisi un auditeur, il nous a dit que l'enseignant, il vend ce qui vient. Donc il nous apporte simplement ce qu'il a dit là et c'est pour chercher exactement les moyens pour avoir l'argent. Et moi je voudrais savoir ceci. Lorsqu'il fait tout ça, est-ce qu'il tient compte de ces étudiants-là auxquels ils vendent ce syllabuste? Donc, s'il tient compte de ces étudiants, alors, lorsqu'il va maintenant dire, donc, c'est obligatoire qu'un étudiant il s'achète ce syllabuste. Alors, est-ce que c'est pour décourager cet étudiant-là qui ne puisse pas étudier? Donc, c'est seulement ça que je voudrais demander à notre étudiant.
Merci, Justin. Vous voulez savoir que le professeur tient compte des étudiants quand on oblige. Peut-être qu'on décourage les gens qui n'ont pas le moyen d'acheter les syllabuses pour pouvoir étudier. Merci beaucoup, Justin, à tous les autres auditeurs. 081-890-6315, c'est notre numéro d'appel. 081-890, c'est notre numéro d'appel. Mais nous avons aussi le message de Maga de Boutembo qui dit ceci. Que pense le ministre, que pense notre invité par exemple, l'instabilité des professeurs dans les institutions, l'achat des syllabus qui devient le commerce, et le point, c'est que ce soit transmissible, lui-même l'avait déjà parlé. Mais du moins, votre souci, le souci de tout le monde, c'est de savoir quelles sont les mesures pour réprimer ce genre de comportement et pour avoir la parole, tout juste pour répondre à toutes ces questions.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capit vous propose la cuisine de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cuisine de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapit.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapit.net.
Professeur Pierre Guitard, vous avez suivi les auditeurs, on a beaucoup dénoncé, vous-même vous avez dénoncé, il y a même un auditeur qui a dit, vous avez reconnu qu'il y a vos collègues professeurs qui font ce pratique, mais bon, le constat général, c'est que, comme l'a dit notre ami Christian de Dubaïa, la conclusion de tout, c'est l'impunité. C'est parce que cela continue. Alors, concrètement, quelles sont les mesures au niveau du ministère pour réprimer ces antivaleurs?
Je remercie pour les intervenants. Je dois dire qu'une émission comme celle-ci devrait peut-être durer très très longtemps parce qu'on s'y enrichit. Mais je voudrais d'abord dire deux, trois petites choses. La première, c'est que c'est un véritable bravo que j'ai fait à l'endroit de Dieudonné de Kinshasa. Il a eu le courage de dénoncer et il l'a très bien fait.
Mais il en a payé le prix.
Malheureusement, il en a payé le prix, mais ceci n'est peut-être que provisoire. Parce que si ce qu'il a dénoncé est établi et que lui, il devient une victime, malheureusement, innocente, eh bien, il a le droit de recouvrer tous ses droits universitaires.
À moins qu'il soit mis en contact avec le ministère.
Mais je peux vous dire que au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, on reçoit sans difficulté. Il passe au ministère, il sera reçu. Deuxième chose que je voudrais dire, je ne partage pas, c'est l'une des réflexions que je ne partage pas de nos auditeurs, je ne partage pas l'idée de Marc de Mbujimaï qui croit trouver une justification des comportements des enseignants dans la modicité des salaires. Non, non. Ceci ne peut pas constituer une circonstance atténuante. On ne peut pas justifier un crime par un crime. On ne peut pas justifier une faute par une autre faute. La modicité des salaires ne peut en aucun cas constituer un argument pour justifier les mauvais comportements des enseignants. Ceci doit également être dit et que les étudiants, les parents, etc. le sachent. Si les salaires sont modiques, ils n'appartiennent pas aux étudiants ni aux parents de s'y plaire. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que quand on a parlé de responsabilité partagée, et moi je suis tout à fait d'accord que la responsabilité est partagée, les enseignants sont les premiers responsables de ce mauvais comportement. Mais tous, comme je l'ai dit encore, c'est Einstein qui avait dit un jour, le monde est mauvais, pas seulement à cause de ceux qui font mal, mais à cause surtout de ceux qui savent et qui se taisent. Les enseignants, les étudiants, les parents, les comités de gestion, la communauté entière, qui savent et qui ne dénoncent pas, eux aussi, quelque part, ils ont une part importante de responsabilité. Donc on ne peut pas simplement dire responsabilité entre les enseignants et le ministère. Non, responsabilité, elle est finalement collective, parce que tous ceux qui ont l'occasion de savoir quelque chose, ils doivent le dénoncer. Et je voudrais, et là j'en suis tout à fait heureux de voir que tous les intervenants insiste sur la nécessité de contrôle systématique des enseignants, contrôle de ce qui se fait dans les établissements. Le ministère a lancé maintenant depuis près d'un an toute une vague de missions de contrôle de viabilité, contrôle de scolarité, etc. Ça continue. Mais il faut effectivement aussi que les fruits de ce contrôle soient appliqués de manière tout à fait certaine. Voilà ce que
On va écouter le dernier groupe d'auditeurs parce qu'on est déjà vers la fin de cette émission. Mm-hmm. Nous avons Sylvain qui nous appelle de Kananga. Bruno est en Boujimaï, au Kasa Oriental, les deux villes qui sont proches. Vous allez intervenir, messieurs. Vous avez chacun une minute parce que c'est vraiment les dernières minutes de l'émission. On ne sera pas allé le plus loin. Sylvain, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Perrault.
Vous êtes en Kananga, au Kasa Occidental. On vous écoute rapidement. En une minute, Sylvain, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces pratiques?
Ce qu'il faut faire, moi, je trouve que notre gouvernement doit prendre en charge les professeurs.
Mmh.
Et imaginez-vous, un professeur d'université ayant beaucoup étudié, ayant beaucoup travaillé sur le plan scientifique, qui se promène à pied, qui va à l'université à pied. Alors, chaque nuit, il ne dort pas, peut-être dans l'obscurité, comme le cas à Kananga. Il est appelé à travailler à l'énergie, il dépense beaucoup de son argent. Et ce monsieur qui est mal payé, imaginez-vous, qu'il est là pour un support, pour aider un jeune étudiant qui doit être bien formé. Et la surcharge, normalement, qui doit être faite par l'État congolais et qui ne la prend pas correctement. Vous l'incriminez dans la vente de syllabus, c'est pas 5 dollars, 10 dollars. On devrait quand même être réaliste. Ces autres qui travaillent durement, l'État doit les prendre en charge.
Merci,
pour pouvoir diminuer le taux d'antivaleur que l'on nomme actuellement.
Merci Sylvain. Oui, merci beaucoup Sylvain. On ne saura pas aller plus loin. Vous pensez qu'il faut améliorer le quotidien de vie des enseignants pour leur permettre de subvenir à leurs besoins? Et les services, par exemple, pris en charge par l'État, ça peut leur permettre de ne pas se rabattre sur les étudiants. Merci. On termine cette émission avec Bruno Dembouyumaï au Kasa Oriental. Bruno, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez aussi une minute pour la conclusion en nom de tous les auditeurs. On vous écoute. Voilà. La ligne téléphonique avec Mbouzoumaï vient d'être perdue. Cela nous donne l'occasion de revenir à vous, professeur Pierre Kita. On a suivi les uns et les autres l'année académique 2010-2011 est en train d'aller à sa fin. On pourra revenir encore l'année prochaine. Est-ce qu'on pense que de telles pratiques, en commençant par la ville de Kinshasa, peuvent prendre fin? Qu'est-ce que les auditeurs, la population des étudiants peuvent retenir autour de toutes ces démonstrations au nom du ministère de l'enseignement supérieur universitaire? Et vous avez là 3 minutes pour conclure cette émission.
Oui, je voudrais dire que une émission comme celle-ci, effectivement, va certainement contribuer à, je ne dirais pas éradiquer totalement, mais en tout cas à réduire ce mal,
mm-hmm.
parce que c'est devenu un véritable fléau dans notre système d'enseignement.
Voilà.
Le fait que l'on dénonce et le fait que ceci soit étalé sur la place publique,
mm-hmm.
j'espère que les enseignants vont avoir tant soit peu de scrupules pour continuer dans cette voie-là. Deuxièmement, les interventions des auditeurs est un encouragement pour le ministère de l'enseignement supérieur. Constitue vraiment un encouragement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils demandent, ce contrôle systématique, cette lutte contre l'impunité, cette guerre sans merci contre les antivaleurs, ce sera justement la ligne de conduite du ministère de l'enseignement supérieur. Donc là, j'ai bien compris que ce que fait le ministère est soutenu par la communauté. Mais j'aimerais quand même dire que c'est vrai, nous avons dénoncé et nous devons continuer à dénoncer ce mal. Mais nous devons également dire qu'à côté de ces professeurs qui se compromettent de cette façon, il y a des centaines et des centaines de professeurs, d'assistants, de chefs de travaux qui font honnêtement le travail. Ces centaines-là, on doit reconnaître leur mérite.
Mmh.
À côté de ces étudiants et étudiantes qui se laissent tenter par les monnayages de points, par les succès faciles, par des diplômes sans effort, et même, et ils ont dénoncé avec raison, ce phénomène de ces faux étudiants qu'on ne voit que le jour de la remise des diplômes alors qu'ils n'y viennent jamais. Eh bien, à côté de cela, il y a des milliers et des milliers d'étudiants et étudiantes qui font correctement leurs devoirs d'étudiants, qui réussissent parce qu'ils ont mérité la réussite. Et quand ils échouent, ils reconnaissent leur échec et ils font un effort pour s'améliorer. Eh bien, tous ces milliers d'étudiants-là et étudiantes, comme toutes ces centaines de professeurs, d'assistants et de chefs de travail, etc., constituent peut-être, pas peut-être, sûrement, la majorité de notre système d'enseignement. Alors, qu'on ne termine pas l'émission sur cette note négative, par laquelle d'ailleurs on avait commencé quand Kayumba de Tchikapa a dit tous les corps académiques, etc. Non. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans notre institut, dans notre enseignement supérieur universitaire, mais il y a également des personnes sur lesquelles la nation peut compter.
Voilà, merci professeur. Nous disons aussi merci à Ariel Javier qui nous a écrit des sacs et honneur sur vous. Et aussi Franck Devienne qui ont contribué à cette émission. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de pouvoir lire leur message. Merci à vous, professeur, de vous être déplacé pour les studios de Radio Capri. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les conseillers académiques du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Merci, professeur.
Je vous remercie.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui et durant toute cette semaine. On se retrouve le lundi, oui, ou prochain, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs, suite à la manifestation de vendeurs et marchands de la ville de Kinshasa le 26 juillet dernier, réclamant l'exclusivité du petit commerce. Le Premier ministre a recommandé le respect de la loi qui réserve l'exclusivité du petit commerce aux nationaux, c'est la loi de 1979. Nous en parlons avec vous le lundi prochain. Que proposez-vous comme mesure pour accompagner cette décision? Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Sylvain Matondo et Nicole Ngata qui nous ont aidé à produire cette émission durant cette semaine. Et surtout, restez en bonne compagnie de Radio Capi. Bon week-end à tous. Thank you.